6h45 sur France Culture.
Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Puisqu'il est question, Thierry Garcin, des relations franco-allemandes, nouvelles relations.
On ne laisse rien au hasard dans les transitions à France Culture. Merci Émilie Chaudet. Donc notre invité est tout de suite, Hans Stark, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur à la Sorbonne, on va parler des relations franco-allemandes, et en fait, plutôt, c'est plus intéressant des relations germano-françaises. Alors, le contexte, une nouvelle présidence en France, Madame Merkel reconduite ou non à l'automne, une Union européenne sans projet, en fait, des pays membres, on pense à la Pologne et à la Hongrie, qui ne pourraient même plus être des pays candidats, des relations avec la Russie complexes, une présidence américaine imprévisible, bref, le grand doute. Alors, en ce qui concerne la relation franco-allemande et germano-française, c'est surtout... Donc, à remarquer le fait que les deux pays ont remarquablement divergé économiquement depuis environ 2000-2001 dans quantité de domaines et que l'Allemagne, évidemment, joue dans la cour des grands depuis de longues années. Et puis, il y a eu les effets de la crise économique mondiale qui ont frappé de plein fouet, évidemment, les pays de l'Union européenne. Alors, d'abord, juste un mot, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'attentat de Manchester, Hans Stark, peut-être 22 morts. Ce qui est frappant, au fond, c'est, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est qu'en tout cas dans les pays d'Europe occidentale, on pense évidemment à l'Allemagne, on pense au Royaume-Uni, on pense à l'Espagne, on pense aussi à l'Italie. C'est la continuité au fond du risque et des attentats terroristes. On peut citer l'extrême-gauche dans les années 60-70, les régionalismes indépendantistes, on peut penser tout de suite au Pays basque espagnol et à l'IRA provisoire en Irlande du Nord. On peut penser évidemment au train des multiples attentats islamistes. C'est une constante depuis un certain nombre de décennies et nous avons, nous, dans la presse, une vision très parcellaire et très événementielle de cela. Mais au fond, les sociétés, surtout en Europe occidentale, vivent avec cela continuellement. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui, ils vivent avec ça et surtout ils doivent vivre, ils doivent accepter de vivre avec cela, même si évidemment les terrorismes auxquels vous faites allusion des années 60 et 70 en Europe n'ont rien à voir avec le terrorisme islamiste. Aujourd'hui, les Allemands sont sous le choc, comme tous les autres pays en Europe, sans doute, mais la question qui se pose, au-delà de cette émotion, est de savoir comment communiquer, comment coopérer au mieux pour infiltrer les milieux djihadistes, pour échanger des informations, pour prévenir éventuellement des actes de cette nature-là. Et là, le Brexit ne va pas aider à ce qu'un véritable dialogue sécuritaire s'instaure à l'échelle européenne, et en particulier entre Londres, Paris et Berlin, qui sont finalement les trois capitales et puis les plus touchées.
Et en même temps, c'est une nécessité, en tout cas, la coopération dans la lutte antiterroriste, parce que tout le monde est logé à la même enseigne, finalement.
Exactement, mais cela implique quand même un degré assez important de transfert d'informations, de transfert de fichiers, de transfert de données, mais aussi une culture, une socialisation européenne, presque de culture de coopération. Et le problème, c'est que, je le redis encore une fois, la décision de la Grande-Bretagne de prendre le large, non seulement ne la protège pas par rapport à tous ces actes, mais en plus rend la coopération infiniment plus difficile.
Alors on revient au rapport germano-français. Comment ont été perçus les derniers événements en France, l'élection d'un nouveau président ? En Allemagne, peut-être dans les milieux politiques, peut-être évidemment au Parlement, peut-être dans la grande presse.
Alors, évidemment, avec un énorme soulagement, car après la victoire de Trump et la montée parallèle dans les sondages en Allemagne de l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne d'extrême droite, donc le sentiment commençait à prévaloir que tout devenait possible. Et il y avait un moment de flottement courant décembre 2016, janvier 2017, avec en particulier le Penelope Gate, où un sentiment commençait à émerger, à savoir, et si Marine Le Pen était élue, puisque Trump l'a réussi. Donc, là, il y a un énorme soulagement, quand même, non seulement que Macron soit élu, mais aussi avec le score qui fut le sien. Donc, que Marine Le Pen, 33%, c'est beaucoup, mais finalement, ce n'est pas la victoire. Donc, il y a un soulagement qui se propage à la fois dans la presse, dans le milieu politique, partout. Et maintenant, il s'agit de tourner la page et de coopérer.
Alors, ce qui est frappant quand même dans les relations entre les deux pays, ce sont évidemment les divergences, c'est l'importance des divergences, et cela depuis longtemps dans le domaine économique, on l'a dit, les exportations, les dépenses publiques, la compétitivité, puis aussi, quand même aussi dans le domaine politique, parce qu'au fond, on voit bien que les deux pays n'ont pas la même vision de la finalité de l'Union européenne.
Alors, je pense au niveau de la finalité de l'Union européenne, nous n'avons pas seulement pas la même vision, mais est-ce que nous avons une vision en France et en Allemagne?
c'est une vraie question.
Et ailleurs. Donc, finalement, pour répondre tout de suite à cette dernière question, Merkel a commencé à finalement gérer les affaires européennes de son côté. Hein. Au jour le jour, et ça lui convient parfaitement. Et d'ailleurs, le gouvernement allemand, l'exécutif allemand a pris une place très importante dans les instances de décision bruxelloise, même si, évidemment, l'Allemagne ne veut pas décider de tout. Il y a une série d'exemples qui montrent au contraire que l'Allemagne n'est pas prédominante ni dominatrice à l'instar de l'Union européenne. Un seul exemple, la politique de la Banque Centrale Européenne en termes d'achat d'obligations d'État va totalement à l'encontre de ce que l'Allemagne souhaite. Mais pour revenir à votre première question, le décrochage économique franco-allemand qu'on observe depuis le début des années 2000 est un vrai souci. Parce que, à la fois économiquement, parce que la France se trouve aujourd'hui un peu... des pays européens qui sont en train de sortir de la crise, mais aussi parce que le décrochage économique a pour conséquence aussi un décrochage presque politique. On s'était habitué pendant des décennies à ce qu'un équilibre franco-allemand soit instauré. L'Allemagne étant plus forte économiquement et la France compense la faiblesse économique par une domination politique. Et aujourd'hui, le prix à payer en France de l'affaiblissement économique se fait remarquer aussi sur le plan politique. Et ça, c'est nouveau et c'est très mauvais.
Et on voit que la France est dans une situation d'ailleurs assez ambiguë, parce que le nouveau président français parle de relance de l'Union européenne dans son programme et même de refondation, mais pour une fondation, il faudrait de nouveaux traités, donc le terme paraît en première analyse très excessif. Mais et puis, d'autre part, relance de l'Union européenne, et en même temps, il y a le préalable du redressement économique de la France, et ça ne va pas se faire en 2-3 ans, c'est pas une décision qu'on prend, la relance économique de la France.
Non, mais je pense que, surtout en Allemagne, on n'attend pas à ce que la France soit relancée dans les 2 semaines qui viennent. Il a un quinquennat devant lui, il commence très tôt, on verra si ça va fonctionner avec la réforme de la loi du travail. Un quinquennat peut quand même modifier la chose, et en plus, je veux dire, il hérite une situation économique qui est moins dégradée que celle que Hollande a trouvée en 2012, et dans un contexte européen moins instable que celui
d'aujourd'hui.
Il y a 5 ans. Oui. Donc aujourd'hui. Donc la situation est meilleure, même si elle n'est pas bonne. Mais en tout cas, elle permet quand même de faire des choses. Je pense que aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que au niveau des convergences et divergences en franco-allemand, divergences fortes sur la philosophie de la culture économique. Nos deux pays sont très différents, ça on le sait. Très libéral, ordo-libéral en Allemagne, plus étatiste, plus axé sur le rôle de l'État dans l'économie en France. Donc ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais en même temps, si j'ose dire, Macron reconnaît le bien fondé d'une politique budgétaire qui respecte grosso modo les grands équilibres qu'on s'était fixés avec le traité de Maastricht. Et ça, c'est une bonne chose sur laquelle on peut bâtir une politique commune. Et l'Allemagne répond aujourd'hui à cela, peut-être pas de façon aussi généreuse qu'on le souhaite en France. On peut revenir sur les détails, mais en tout cas, Schäuble a laissé entendre que l'Allemagne envisage
soutenir
le plan d'investissement de l'Union européenne, ça c'est important, de mettre le cap sur les investissements dans le domaine digital, dans le domaine énergétique, et puis aussi de réfléchir avec la France sur une, on peut appeler ça une reconstruction de la zone euro qui pourrait à terme se doter d'un Parlement, voire peut-être même d'un budget européen, rien que pour l'Eurogroupe. Donc ce sont quand même des signes qui sont encourageants.
Voilà, on va être obligé de s'arrêter là. En tout cas, merci de cet éclairage, Hans Stahl. Je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne. On aura le temps de revenir sur toutes ces questions bilatérales et même, évidemment, intra-européennes. Et franceculture.fr pour écouter l'émission et la télécharger.
Merci à vous, Thierry Garcin. Et demain, il sera question de l'Alliance Atlantique. Quelle reconfiguration à l'heure du sommet?
Voilà, à l'heure du sommet. Et notre invité sera Frédéric Charillon, donc universitaire.